je voudrais aborder sur cette vie de Coco Chanel. Je me suis intéressé à la vie de Coco Chanel, alors pourquoi? Je suis né en 40, comme Mme Kelly, dans la commune voisine de celle de la mère de Coco Chanel. Jamais. Donc depuis toujours, enfin, je ne me rappelle pas depuis quand, je me suis intéressé à la famille de Coco Chanel. J'avais fait sa généalogie sans remettre en cause le principe éventuel que Chanel n'était peut-être pas allé en voisine. J'avais lu, comme vous tous, l'histoire que raconte Edmond Chambre, que je n'ai pas lu. Donc, je vais vous dire comment s'est passé, je dirais entre guillemets, ma découverte. Je vais aborder cet après-midi trois thèmes principaux. Donc, Coco Chanel à Aubazine ou non. Donc, pour moi, il n'y est pas allé. Vous pouvez avoir un avis différent. Je suis prêt à tout écouter. Quelque chose qu'on connaît mal, enfin que j'ai découvert à travers cette enquête, que la famille Chanel a vécu aussi à Obja, quelques années. Donc, nouveauté dont personne n'a entendu parler, pas plus en Obja d'ailleurs. Et enfin, je voudrais aborder le fameux thème de l'escalier qui aurait inspiré la maison de Chanel à Roquebrune, l'escalier de la Posa, qui est peut-être inspiré de l'escalier d'Aubazine, de l'escalier dit des moines d'Aubazine, mais pas sûr. Je vous dirais, il y a une autre version, dite par Chanel elle-même. Alors, comment j'en suis arrivé à ce truc-là? Je vous ai dit, enfin, à contester la présence de Chanel à Brive, puisque c'est ça le thème essentiel de mon livre. Donc, il y a 2 ans, à peu près, à cette époque-là, comme tous les ans, je faisais une réunion généalogique à Courpières, le pays de la mère de Coco Chanel. Donc, il y avait des membres de notre association qui étaient là, et parmi les présents, il y avait des descendants de la famille Chanel que j'avais invités, qui habitaient Vichy et qui étaient venus. Donc, j'ai commencé à raconter l'histoire, enfin, j'avais fait toutes les généalogies de la famille maternelle de Chanel pour les gens qui étaient présents. Et j'ai commencé à raconter l'histoire telle que la raconte Edmond Charlot. Et à un moment, une vieille dame, qui avait plus de 90 ans, mais qui descendait de la tente de Coco Chanel de Varennes-sur-Allier, a remué les bras et m'a dit « c'est pas du tout ça. Vous demanderez à mon neveu. » Donc ça veut dire quand je parlais d'Aubazine, elle m'a dit « non, non, c'est pas ça. Elle n'est pas allée à Aubazine. » Bon, j'ai été le premier surpris, bien sûr. Et j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc, je suis allé chez le fameux neveu qui habitait Vichy, qui avait eu la bonne idée d'enregistrer sa grand-mère quelques années avant qu'elle ne meure, donc dans les années 60, 70, je ne sais pas trop, et qui m'a passé leur transmission de cet entretien. Où effectivement, il explique comment, après le décès à Brive, la famille a quitté Brive pour aller ailleurs. J'ai lu et relu, parce que lu ou acheté tout un tas de bouquins qui ont été écrits avant celui d'Edmond Charlot, donc qui reflètent la vérité de Coco Chanel, et pas celle d'Edmond Charlot. Donc je les ai lus, relus, je les ai comparés, j'ai sorti les phrases. Ensuite, bon, j'avais fait la généalogie. J'ai regardé un petit peu quelles étaient les personnes concernées dans ce que racontait Coco Chanel, et j'ai découvert effectivement que Coco Chanel, après la mort de sa mère, n'était pas en Asie, mais qu'elle était un tiers dans Python. Alors je vais vous montrer preuves de ce que j'avance. Vous pouvez y aller aussi. Donc, d'abord, ça, c'est l'acte de décès de Jeanne de Vol, mère de Coco Chanel, à Brive, en 1895. Tout le monde le sait, donc elle est morte à Brive, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'était en février 1895. La déclaration a été faite par son oncle Hippolyte, qui était dit marchand de vin, et elle habitait à l'époque, vous devez savoir où c'est, avenue d'Alsace-Lorraine. Oui, peut-être. Enfin, je vois bien. Donc, Jeanne de Vol, dite marchande, puisqu'effectivement, les Chanel étaient des marchands forains. Donc, ça, à peu près tout le monde connaît cet acte de décès. En fait, si vous ne connaissez pas, il suffit d'aller sur Internet, sur les archives de la Corrèze. Alors, deuxième document que je vais vous montrer d'entrée, le recensement de Thiers de 1896. Donc, fort des recherches généalogiques que j'avais faites, et fort de ce que racontait Coco Chanel, qui a toujours dit à ses premiers biographes qu'après la mort de sa mère, elle était partie. J'étais tante à la mode de Bretagne, cousine de Germaine de sa mère. Comme j'avais fait la généalogie de la famille maternelle, j'avais vu qu'il y avait des cousines germaines qui habitaient Thiers. On est en 1895, pour ceux qui ont fait des recherches, il y a eu un recensement en 1896. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir le recensement de Thiers de 1896. Après tout, pourquoi pas? Je ne croyais pas trop. Hein. Et donc, j'ai cherché la fameuse cousine germaine qui s'appelait Anaïs Clouvel, effectivement cousine germaine de Jeanne de Vol, blanchisseuse dans les faubourgs de Thiers. Ben, c'est le truc suivant, bon, c'est la page d'après. Et qu'est-ce qu'on lit dans la page d'après? Donc, Anaïs Clouvel était déjà veuve. Il y a les autres membres de la famille, Gilbert Babouillon, et Bourillon, parce que les gens sont sûrs, ça peut tromper. Son gendre, maçon, Anna Jarix, sa fille, c'était le nom du mari, Anaïs Clouvel, repasseuse, sa fille, Albert Bourillon, le petit-fils, et en bas, Gabrielle Chanel, 12 ans, bonne enfant domestique. Alors, certains me diront, c'est pas tout à fait écrit Chanel, c'est Chassel. Bon, je sais pas trop ce qu'a voulu écrire la genre censeur, mais des Chanel, on est bien chez les cousines germaines, des Chanel en Auvergne, il n'y en a pas. C'est une variété très rare. Gabriel, c'est bien le prénom, 12 ans, c'est bien l'âge. Et je continue mon enquête. Et effectivement, les descendants de la famille, le fils du petit garçon de 2 ans, là, m'a confirmé que Coco Chanel était bien chez eux. J'ai retrouvé, tiens, il habite toujours Thiers. Il m'a dit oui, c'est vrai. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Il m'a dit, on me l'a jamais demandé. C'était une bonne raison pour ne pas. Puis c'est un monsieur qui était magistrat, qui était un peu partout dans le monde, donc, qui était peu plaisant. Alors, la seule chose que certains disent, ouais, mais c'est pas tout à fait écrit Chanel. C'est un peu vrai, mais vu les autres fautes qu'il a fait,
ouais.
C'est pas Jarry, le nom c'est Jarry, c'est pas Bourillon, c'est Bourillon, donc on n'en était pas à une faute près, d'autant plus que le nom de Chanel n'était pas connu par l'agent censeur, il écrivait. Et en plus, elle est enregistrée à Saumur sous le nom de Chasmel, C-H-A-S-M-E.
Ah, oui.
C'est une erreur, mais elle est enregistrée à Saumur. Alors, c'est pas tout à fait. Je vais vous montrer notre. Donc là, on est le dernier week-end de mars 1896. Le même jour, à Aubazy, il y a bien une Chanel, mais c'est pas Gabriel. C'est Satan. Si vous pouvez retrouver l'image. Je ne sais plus lequel est-ce. Donc ça, c'est l'état-major de Basile. Donc là, c'est la directrice de l'orphelinat de Basile, Marie Clochard, dont certains connaissent peut-être le nom. Les institutrices, les cuisinières, les surveillantes, etc., qui sont dans l'encensement de Basile. Alors, page suivante. Et effectivement, on a signé Adrien Chanel. Mais c'est Adrien Chanel, Satan.
Adrien Chanel, 15 ans.
Oui, c'est ça.
Donc il y a bien une Chanel qui est passée par Aubazie comme écolière. Écolière, ça veut dire qu'elle payait. Contrairement à ceux qui étaient en dessous, là, qui étaient à l'orphelinat et qui ne payaient pas. Donc à Aubazie, il y a une Chanel qui s'appelle Adrien Chanel. Mais il n'y a pas Gabriel Chanel. Les recensements ont lieu strictement le même jour, c'est-à-dire le même jour que Gabriel Chanel est à Thiers, Coco, et sa tante Adrienne Chanel, qui a à peu près le même âge, elle a 2 ans de plus, est à Aubazie. D'où certainement la confusion qui a eu lieu plus tard entre les deux personnages, de la part de ceux qui ont rapporté l'histoire, de la part de ce qui a pu se dire sur place. Autre chose que j'ai fait, bon, c'était pas tout à fait suffisant, j'avais ces preuves-là. J'ai lu pour lui. Alors j'avais lu l'irrégulière, hein, certains d'entre vous l'ont lu. C'est le bouquin fondateur du mythe Chanel à Aubazie. Edmond Charleroux avait eu le prix Goncourt quelques années auparavant, et elle a fait ce livre, l'irrégulière, qui se veut être effectivement une biographie de Chanel, et où elle raconte tout ce séjour de Chanel à Aubazie. Alors comment l'a-t-elle, pourquoi l'a-t-elle créé, j'en sais rien, enfin bon. Mais ça, c'était pas les premières biographies de Chanel. Il y en a eu d'autres avant, par Paul Morand, par Louise de Villemorin. Louise de Villemorin n'avait pas cru Chanel, donc n'avait pas publié son livre, mais c'est quand même intéressant. Il a été publié depuis. Et un autre bouquin qui s'appelle, très intéressant, on en reparlera, Chanel solitaire, par Claude Bellet, qui est le surnom de Claude Delay, qui en a fait 10 ans plus tard une deuxième version où elle a modifié son texte en reprenant ce qu'a écrit Edmond Charleroux. Mais dans la première version, c'est pas du tout la même chose. Donc dans tous ces livres, alors il y en a d'autres, je ne les ai pas tous portés, il y en a 3 ou 4 autres, par Marcel Lébriche, par Pierre Galante, qui ont tous été écrits avant Edmond Charleroux, et où Coco Chanel raconte toujours la même histoire, toujours. Il ne prononce pas le mot d'Aubazie. Et elle dit qu'après la mort de sa mère, elle a été, elle bien mignonne, alors ça c'est elle qui l'ajoute, mise chez des tantes à la mode de Bretagne, cousine germaine de sa mère. Et elle dit toujours la même histoire. Aucun ne l'a cru. Mais ils ont au moins l'avantage d'avoir rapporté ses propos. Ils disaient, bon, on n'a pas trouvé qui était ses cousines germaines, comme d'habitude, elle raconte n'importe quoi. Donc Chanel parlait beaucoup. Mais au moins, dans les propos sur son enfance, et ce séjour chez les cousines germaines de sa mère, elle a une grande constance, c'est-à-dire, elle est allée chez les cousines germaines de sa mère. Alors, j'ai fini par découvrir, à dire, vous pouvez revenir en arrière. Je vais vous montrer comment. Oui, là. Donc j'ai tant de dire. Non, pas sûr. Celle de monsieur. Non, mais vous fermez. Donc voilà la famille, si vous pouvez monter un peu. Voilà la famille de Thiers. Cette fameuse Anaïs Clouvel qu'on trouve dans les recensements, mariée à un certain Jarix. Sa fille, Anaïs Jarix, qu'on trouve dans les recensements. Et donc, vous voyez, cette Anaïs Clouvel, par ce schéma, est cousine germaine des Jeanne de Brun. Donc, il n'y a aucune espèce de doute sur le lien de parenté. C'est ce qui m'a fait aller à Thiers directement. C'est-à-dire, quand j'ai lu la phrase que l'on trouve systématiquement dans les premières généalogies chez les cousines germaines de sa mère, je me suis dit, bon, ben, je vais regarder exactement. Je l'avais fait, cette généalogie, je l'avais sous la main. C'est pour ça que j'allais voir le sens. J'ai trouvé cette analyse que j'ai. Donc, ben, voilà, elle est allée chez elle. Alors, ce n'était pas tout à fait n'importe qui, puisque le frère d'Anaïs Clouvel, ce François Clouvel, qui était donc cousin germain aussi de Jeanne de Vol, a été maire de Thiers après la guerre de 14. Et depuis l'époque où Coco Chanel était dans la famille, il était déjà conseiller municipal. C'est lui qui a fondé la société mutualiste de Thiers. Et à ce titre, il est mort à 97 ans, donc il est très vieux. Et à cause de ses actions locales, il a été fait chevalier puis officier de la Légion d'honneur. C'était quand même, à Thiers, dans l'histoire de Thiers, un personnage relativement important. Donc, cet Anna Jarrix était marié à un certain Gilbert Brouillon, qui lui venait de la Creuse, qui était un maçon, comme tous les Creusois. Et ce Fernand Brouillon était le petit garçon là, de 2 ans qui est dans la Creuse. Et j'ai rencontré son fils, qui m'a confirmé, oui, que Coco Chanel était bien chez eux. Donc, 1895. Jeanne de Beuve meurt à Brive. Fin mars 1896, alors quand est-ce qu'elle est allée à Thiers, je ne sais rien, mais fin mars 1896, Gabrielle Chanel est à Thiers et non en Aubaine. Alors, je ne sais pas, ben, peut-être qu'il y en a qui veulent réagir là-dessus.
Il y avait une sœur, elle avait une sœur, Coco Chanel à Aubaine aussi. Elle avait une sœur.
Alors, on parle d'abord des sœurs, oui.
Oui, elle avait. En fait, Coco Chanel avait survivant, a eu 2 sœurs et 2 frères. 2 sœurs qui sont mortes jeunes. Une qui était sa sœur aînée, qui s'appelait Julien, qui a eu un enfant, et que Coco Chanel après a recueilli. Il s'en est occupé, cette Julien est née à Aubenas, morte en 1910 à Paris. J'ai oublié son nom, il est enterré au cimetière de la Porte de la Chapelle, de l'autre côté du périphérique. Et elle avait une sœur cadette qui s'appelait Antoinette, qui est de sa famille de Vichy, appelée Tinette, et qui, elle, est morte à Buenos Aires.
Excusez-moi, monsieur, mais Coco Chanel, elle est restée à Aubazine combien de temps? Vous dites 1896, mais jusqu'à quand?
Il faut répéter ce que disent les gens, sinon personne ne comprendra.
Ce n'est pas allée à Aubazine, a priori.
Mais est-ce qu'elle n'a pas été après à Aubazine en 97?
Bon, alors, il y a. Voilà, on y va doucement. D'abord, les sœurs. Est-ce que les sœurs ont été, elles, à Aubazine?
J'en ai aucune preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre.
En tout cas, elles ne sont pas dans le recensement de 95.
Ce que je sais, c'est que la Julia,
oui, l'aînée,
la sœur aînée, la cousine Marthe Costier, je vais pas la cousine Marthe Costier, qui a été enregistrée, dit qu'après la mort de la mère de Coco Chanel, tout le monde a été rapatrié à Varennes-sur-Allier, chez la tante Louise, sauf Julia, qui serait restée à Brive, dans le milieu des marchands forains. Je peux vous lire exactement ce qu'elle raconte. J'ai tendance à la croire compte tenu d'autre chose. Bien sûr, c'est... Si vous me donnez 30 secondes, il faut que je retrouve le papier. La fille de la tante Louise de Varennes-sur-Allier, qui est interviewée par son petit-fils. Donc son petit-fils m'a remis une transcription de l'interview. Sa femme est morte. Quand elle a été enterrée, au bout de quelques jours, il a fait quelques petits baluchons, le père, de pas grand-chose, et il a expédié ses enfants à Varennes chez maman. Donc il parle de sa mère, la tante Louise. Ils sont arrivés presque comme des mendicants. Alors, elle continue. Elle énumère ce qui était là. Il y avait... Maintenant, je vais te donner le nom de ses enfants parce que je les ai. Il y avait Chanel Julien. Il y avait Chanel Gabriel. Bien sûr, c'était la coco. Enfin, Jean pose la question. Il y avait Chanel Gabriel, oui, bien sûr, c'était la coco. Elle y était aussi la coco. Il y avait Chanel Alphonse, oui, bien sûr, je l'ai bien connue. Oui, il n'y a que la Julia, parler comme on parle à l'époque, qu'ils n'ont pas envoyé parce qu'elle est restée où elle travaillait avec ceux qui font les marchés, tu sais. Alors Jean dit les forains. Oui, les forains. Alors elle est restée là et il n'a pas été à Varennes. Mais tous les autres, ils sont venus à Varennes, c'est-à-dire Gabriel Chanel, Antoinette Chanel, sa petite sœur, et les deux garçons.
Quand on va au
basique,
il y a Adrienne.
Mais oui, mais Adrienne,
c'est la tante.
C'est la tante avec qui elle va apprendre le métier.
Je ne sais pas si elle a appris le métier, mais il y a Adrienne, mais elle n'était pas à Brive.
Elle était au
basique. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée là au basique. Oui. En 1896, elle était. Donc c'est ça. Donc effectivement, c'est vrai. Donc à Aubasie, il y avait une Chanel, mais ce n'était pas Coco Chanel. Donc. En 1800. Alors, est-ce fin 95, début 96, j'en sais rien exactement. Mais tous les autres enfants ont été amenés par Albert Chanel chez sa sœur, Louise Chanel, qui avait épousé un cheminot, à Varennes-sur-Allier. Alors, effectivement, il a trouvé. Lui, il allait de marché en marché, il ne voulait pas s'encombrer de 5 marmots. Donc, il a amené ça chez sa sœur, qui avait l'avantage, dont le mari avait l'avantage d'avoir un boulot fixe, puisqu'il était employé du PLM, avec un salaire qui arrivait tous les mois quand même. Et peut-être un logement en fonction, j'en sais rien. Bon, donc voilà, toute la famille en 1800, fin 95, début 96, arrive à Varennes-sur-Allier. Et de Varennes-sur-Allier, ils sont dispatchés. Et Gabrielle Chanel, elle, est envoyée à Thiers. Chez la cousine germaine de sa mère. Antoinette apparemment reste à Varennes-sur-Allier. Julia reste sans doute sur les marchés à Brive ou dans les environs. Et le dernier, Lucien, est placé, ça j'en suis sûr, parce que son dossier d'enfant assisté est d'abord placé dans la famille. Le père ne paye pas la pension, donc il est recueilli par l'assistance publique. Il y a un dossier aux archives à Clermont qui détaille tout le parcours du petit Lucien dans les différents lieux, dans les familles où il a été gardé, etc. Donc, par rapport à Aubazine, alors, il était passé un moment, j'en sais rien, mais il n'y était pas les coups. Par contre, Chanel, oui. Alors, je vais essayer de répondre. Il faudrait peut-être prendre un micro là-bas. Adrienne
se trouvait à Aubazine, la famille Chanel n'étant pas originaire.
Oui, mais les grands-parents, c'est les parents d'Adrienne, à ce moment-là, étaient à Brive.
Ah, les parents d'Adrienne.
Les parents d'Adrienne, les grands-parents de Coco Chanel, ont habité Brive, je ne sais, jusqu'en 1000. On peut jalonner le parcours des uns des autres grâce au recensement.
Oui, c'est qu'ils étaient décédés.
Pardon ?
Ils étaient donc décédés, s'ils l'ont placé là.
Les grands-parents, bon.
Les parents d'Adrienne.
Non, ils n'étaient pas décédés, ils habitaient près. Donc les parents d'Adrienne et du père de Coco, donc les grands-parents de Coco Chanel, sont morts à Vichy, l'un à Vichy et l'autre à Varennes-sur-Allier, peu avant la guerre de 14. Mais la famille Chanel, les Chanel sont originaires du Gard, des Cévennes, dans les montagnes. Ils sont venus s'installer en Auvergne autour de 1880 et tout d'abord à Issoire. Donc là, on suit assez bien le parcours. Les grands-parents sont venus. Le père de Coco Chanel, après son service militaire, les a rejoints à Issoire. C'est ce qu'on voit sur sa fiche militaire. C'est facile à vérifier. La grand-mère de Coco Chanel, qui s'appelait Virginie Fournier, avait ouvert un magasin hier soir, elle a fait de mauvaises affaires, elle a fait faillite, elle a été condamnée par le tribunal administratif et elle a quitté hier soir. Ils se sont retrouvés ensuite à Saintes, où est née Adrienne. Ainsi qu'un premier enfant du couple, qui n'avait jamais été détecté jusque-là, un premier enfant du couple, Albert Jeanne de Vaulx, né à Saintes. Après, ils sont restés à Sainte, je ne sais pas combien de temps. Donc, ce que je sais, c'est que grâce au recensement militaire, en 1892, les grands-parents Chanel étaient à Brive. Et en, ils y sont encore en 95, sans doute, quand la meurt Jeanne de Brive. Un an ou deux après, on les retrouve à Objat. Donc ça, c'était une grande nouveauté. Personne n'avait jamais entendu parler d'Objat. C'est la, cette vieille dame, enfin, c'est Marthe Costier, qui, lors de son interview, dit à un moment, « Ah oui, je me rappelle, c'était à Objat. » Bon, j'ai été un peu surpris, moi aussi, Objat, je connais un peu, là, j'en avais jamais entendu parler. Personne n'a jamais évoqué Objat dans les parcours de la famille Chanel en Corrèze. J'ai eu, comme souvent le cas du généalogiste, d'aller jeter un coup d'œil sur la fiche militaire du deuxième frère de, d'Albert Chanel, le père, qui a été, qui avait 20 ans en 1897, et en 1897, quand il a fait son conseil de révision, ici à Brive d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a écrit sur sa fiche? Qu'il habite Objat et que ses parents, donc les grands-parents de Coco, sont à Objat. Alors combien de temps est-elle restée à Objat? Ça, j'en sais rien. Enfin, ils sont restés à Objat. Donc ça, c'est une nouveauté. Je suis allé à Objat, on ne trouve rien. Ils étaient marchands forains, ils allaient ici ou là. Ils s'installaient. Ce n'étaient pas des marchands forains qui étaient forcément en permanence. Oui, monsieur.
Oui. Donc, je sais pas. J'ai une question rapide à vous poser.
Pardon. Antoinette, oui. La plus jeune sœur, la cadette, a bien été placée au Basile à un moment.
Antoinette, on ne sait pas. Vraiment. En 1800, peut-être, je dis peut-être, je ne dirais pas non, je dis simplement peut-être. Ce que je sais, c'est qu'en 1896, au moment du recensement, elle est recensée à Varennes-sur-Allier. Alors, après la mort de sa mère, aurait-elle pu être amenée à Aubazine? J'en sais rien.
Et le recensement,
c'est
Adrienne,
la tante, qui l'avait. En tous les cas, elle n'est plus à Aubazine en 85.
Étant donné qu'elle était, elle allait donc à l'école au monastère, pourquoi ne pas envisager qu'au moment des vacances, donc puisque Chanel après a été passé un temps en Jean, se serait retrouvé un moment de vacances, donc avec Adrienne,
Antoinette. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Il y a un autre truc, c'est Valet.
Oui, alors une question rapide. Entre 95 et 96, il s'est peut-être écoulé, disons, 4-5 mois. Est-ce qu'on peut supposer, oui ou non, donnez-moi une réponse claire sur ça, qu'elle pourrait être passée à Aubazine?
Moi, la réponse claire que je peux faire, c'est le témoignage de Marthe Costier.
Ce n'est qu'un témoignage, il n'y a aucune assurance, puisqu'on est dans un laps de temps de 5-6 mois. Son passage peut être très court, mais réel et physique, disons, à Aubazine.
Oui, on ne peut pas le nier. Moi, je peux pas vous dire oui ou non, j'en sais rien. Ce que je constate simplement, j'ai l'ami. Compte tenu de la rédaction du témoignage de Marthe Costier, j'ai l'impression qu'elle dit la vérité, puisque c'est la première à parler d'Objat. J'étais le premier surpris moi-même par ce mot d'Objat, personne n'en a jamais parlé, j'ai pu vérifier que c'était vrai. Bon, c'est une première chose. Après, effectivement, il s'est passé quelques mois entre le décès de Jeanne de Vaulx et le recensement de mars 1896. Elle peut venir quelques mois en Basile, tout est possible. Compte tenu des termes de la rédaction du témoignage, parce que quand même, Marthe Costier vivait à Marennes, c'était la cousine germaine, ils ont vécu ensemble avec les hommes, ça semble refléter la vérité, c'est ce que je peux dire. Donc dire qu'elle n'a jamais été à Basile, elle n'était pas à Basile en 1896, ça c'est sûr.
Mais après, une formation de juriste, et j'ai spécialement étudié l'état civil, j'ai jamais vraiment compris, c'est après 1947 ou 48 qu'on dit que le recensement emporte présence physique. Le recensement emporte une présence physique. C'est-à-dire que pour la période que vous mentionnez, le recensement administratif et ou militaire n'oblige pas la présence physique d'un individu au sein de la cellule dont il recense un enfant. C'est-à-dire que si vous êtes moi, par exemple, petit, quand j'étais en maison chez les Jésuites dans les Alpes, j'étais quand même rattaché chez mes parents en Champagne-Ardenne, et j'avais 11 ans. C'est la même chose pour une gamine de 12 ans, quelle qu'elle soit et qui qu'elle ait eu été, d'avoir été placée, peut-être pour des raisons de commodité familiale, en attendant une quelconque décision pour savoir qui va s'occuper d'elle. Elle peut très bien avoir été rattachée à cette unité familiale en ayant été dans une école ou un orphelinat, et vu qu'elle n'était pas encore en âge de discernement, qu'elle n'avait pas cet âge de 14 ans, elle n'avait pas été sur le registre de l'école. Je suis très gêné par ça.
Oui, moi je ne suis pas gêné parce que les principes du recensement de l'époque, c'était les gens présents, en un lieu. En 1896,
il fallait avoir une autorité parentale, on n'appelait pas parentale, on l'appelait paternelle à l'époque. Il fallait avoir l'autorité paternelle pour mettre quelqu'un sur un registre. Et ni Aubazine, ni cette famille n'avaient autorité pour inscrire cet enfant.
Si.
Moi, il n'y a pas.
En 1880.
Aucun des biographes de Chanel n'est intéressé à l'histoire des décisions de justice ou des décisions de l'action sociale liées au placement des enfants. C'est non, ça qui est assez gênant.
Je ne vois pas pourquoi l'agent recenseur de Thiers aurait inscrit Gabriel Chanel, dont il n'avait rien à foutre. Gabriel Chanel, rue du Rôle à Thiers. Il ne savait pas qui c'était. C'était un enfant qui vivait dans la famille Clouvel. Les principes du recensement se passaient, il y avait une date très précise. Alors, je ne sais plus si c'est le 29 ou 30 mars, dans ce cas-là, c'était d'inscrire tous les gens qui étaient physiquement présents sur les lieux à cette heure. C'était le principe du recensement. Après que c'est évolué.
Mais c'était déjà assez compliqué, alors on prenait le nom des gens qui étaient dans la maison.
À l'instant T.
Dans ce cas-là, ça n'emporte pas une constance.
Oui, d'accord. Alors, je dis. Je ne sais pas ce qu'ils auraient écrit. Ils l'inscrivent quand même comme bonne enfant domestique, c'est-à-dire c'est une présence physique.
Oui.
Deuxièmement, elle raconte sa vie entière. Vous lisez Louise de Villemorin, vous lisez Claude Pellen, vous lisez Paul Morand, elle raconte toujours la même chose. Toujours. Chez Louise de Villemorin, ça s'étend sur 20 ou 25 pages. Alors, elle prononce le mot de Thiers à la marge, en disant elle est allée se faire faire une robe chez un couturier de Thiers. Alors, j'ai fait remarquer à quelqu'un de Thiers, oui, mais elle y était déjà à Thiers. Il m'a dit, c'est normal qu'elle dise de Thiers, parce qu'elle habitait dans les faubourgs. Et à ce moment-là, quand on habite dans les faubourgs en bas, on va à Thiers, quand on monte là-haut. Donc, et le petit-fils. Le fils de Fernand Bourillon là, m'a dit oui, c'est vrai, elle était chez nous. Je peux pas. Il m'a même montré la maison.
Elle est restée combien de temps?
C'est une seconde question.
Ça, c'est une autre question. Il y a une autre dame qui veut poser une question.
Oui, mais celle-là, je la vois pas.
Oui, c'est bien.
Allez-y, prenez un micro, j'entends.
On parlait du témoignage de Marc Costier. De quand date-t-il ce témoignage?
Je n'ai pas la date précise, c'est son petit-fils qui l'a enregistré dans les années 60-70, je ne sais pas exactement la date.
C'est assez ancien par rapport aux années 1896.
Oui, d'accord, mais c'est pas pire que ceux qui ont témoigné pour Edmond Charlot.
Parce que, après avoir quitté Aubazine, je maintiens à penser que Gabrielle Chanel fuit à Aubazine. Avec sa sœur, sa cousine, sa tante, pardon, Adrienne, elles sont quand même parties ensemble à Moulins.
Non.
Ah si.
Bah non, elles sont allées, je vous dis, c'est pas la peine. Elles sont tout concord, pour dire qu'elles sont parties. Alors, où l'histoire est peut-être pas claire, est-on venu les chercher à Brive, où ont-elles été amenées à Varennes-sur-Allier? Je donnerai pas ma main à couper entre les deux versions. Bon, il est plus probable que la version de Costier est bonne, puisque le truc le plus bizarre l'histoire d'Obja se trouve vérifiée. Moi c'est ça. J'ai un esprit scientifique. Donc, je regarde les trucs tels qu'ils sont écrits. Donc, le petit doute qu'il peut y avoir, c'est si Antoinette, éventuellement, est passée par Aubin. Parce que tel que le dit Marthe Faustier, on peut avoir un doute. Mais on sait beaucoup.
Antoinette, c'est la sœur.
Pardon ?
Antoinette, c'est la sœur de Coco.
Oui, oui, petite sœur. La sœur cadette.
Mais à l'autre recensement, après 5 ans plus tard, on en retrouve.
Alors, le recensement suivant, c'est 1901.
Alors, 1901, on les retrouve d'une part.
Voilà. Attendez. Où a-t-elle fait ses études?
Reprenons l'histoire. Je l'ai commencé depuis le début, la seule fois, la vie de Coco Chanel.
Attendez, je voudrais apporter une précision concernant le recensement de 1901.
Oui.
Pour la commune d'Aubazine, il y a des documents aux archives départementales. C'est une chance parce que ce n'est pas le cas. On a des documents de recensement pour la commune d'Aubazine bien avant 1906. Donc ils sont consultables, effectivement. Et comme vous l'avez montré, pour 1896, nous avons une liste annexe qui recense tout le personnel et les élèves et les orphelines d'Aubazine. Pour 1901, le document général existe, liste nominative des habitants d'Aubazine, il n'y a pas de problème. Mais la fameuse liste annexe qui a existé, puisqu'elle elle apparaît au dos du document principal, malheureusement, elle n'est pas présente dans ce document. Donc on ne peut pas savoir qui était à Aubazine, à l'abbaye, en 1901. Alors pourquoi ce document n'est plus dans la pièce d'archives, mystère et boule de bois.
Alors, pour les recensements de la Corrèze, c'est bien dommage, tous les recensements, presque tous les recensements, avant 1906, ont été jetés par le département. Donc, contrairement à tous les départements des environs, on n'a aucun recensement antérieur à 1906 en Corrèze. Sauf qui avait été conservé par miracle par la commune d'Aubazine, ce document annexe, qu'on ne voit pratiquement jamais d'ailleurs, qui avait été conservé, lui, par la commune d'Aubazine et qui figure dans les archives de la commune d'Aubazine. Aux archives de Dieu. Pardon.
L'annexe.
Bien qu'il soit porté.
L'annexe.
Oui, tout à fait. Cette fameuse annexe apparaît comme lors du récapitulatif de la population, avec une population de 65 personnes. Et malheureusement, la liste nominative qui aurait dû être là, puisqu'elle est réglementaire, eh bien, elle n'y est plus.
Non, mais en 1920, il est évident que pour tout un tas de raisons,
pas dire si les Chanel étaient encore ou avaient été à Aubazine en 1901.
Voilà. Bon, il y a d'autres.
Et où a-t-elle fait ses études?
Alors, ses études.
C'est le plus principal.
Il y a encore des questions.
Bon. Si on résume la vie, très rapidement, de Coco Chanel, il y a plusieurs périodes dans sa vie. Donc, elle naît à Saumur, tout à fait par hasard. Ses parents, son père pourraient les marchés. Enfin, les marchés, mais parce qu'ils s'installaient à demeure. Et donc, dans les années. Dans la naissance de Coco Chanel, ils sont, alors tout, je peux donc un département, c'est
l'Indre-et-Loire.
L'Indre-et-Loire, donc ils sont à Tours. Je ne sais pas bien ce qui se passe, en tous les cas, 2 mois avant la naissance de Coco Chanel, son père est condamné pour escroquerie. Ah bon. Ce qui explique qu'il n'est pas présent à sa naissance, puisqu'on dit père absent. Alors effectivement, je suppose qu'il est en prison. Mais bon, je n'ai pas recherché l'entrée en prison. Pendant un certain temps, peu après, donc en 1800, Chanel Coco naît dans l'été 83, en 84, le couple se marie enfin à Courpierre, en reconnaissant ses 2 enfants nés précédemment, c'est-à-dire Julia Aubenas et Coco Chanel, Gabriel Chanel, à Saumur. Ils se marient. Et à ce moment-là, en gros, de 84 à 88, le couple s'installe à Issoire. Donc, à ce moment-là, Coco Chanel, entre 0 et 5 ans, elle n'est sûrement pas allée à l'école. De 88 à 93, le couple, et là il y a plusieurs documents qui le prouvent, habite Courpierre, chez l'oncle, un des oncles de Jeanne de Vaulx. Alors là, il est probable qu'elle est allée à l'école, parce que la famille savait écrire. Je suppose qu'elle a entre 5 et 10 ans, je suppose qu'elle est allée à l'école, mais à Courpierre, on a retrouvé aucun document sur aucun élève de Courpierre. À cette époque, il y avait une école publique et une école religieuse. Donc on ne sait pas où elle est allée, plus probablement à l'école religieuse, parce que son oncle était jardinier dans le couvent d'à côté. Donc il y a bonne chance qu'il soit allé. Mais c'est tout. Après, elle vient à Brive, peut-être qu'elle est allée à l'école à Brive. Moi, j'en sais rien, il faudrait peut-être chercher. Les deux ans, elle passe 93 à 95, elle passe deux ans à Brive. À vous de chercher, moi je suis un chercheur. Hein. Et après, donc elle vient à Thiers. Alors tout de suite, avec un petit décalage, je ne donnerai pas ma main coupée, mais enfin elle est quand même à Thiers, au moins du printemps 96, pendant 3-4 ans, puisqu'elle raconte à Louise de Villemorin plein de choses qu'elle a fait. Elle a fait sa première communion, manifestement à Thiers. Mais il n'y a pas de liste des communions. Elle s'est fait faire une robe chez une couturière de Thiers, celle qui le dit. Elle lit des journaux dans sa famille de Thiers, des romans plutôt dans sa famille de Thiers. Est-elle allée à l'école? Possible. À Thiers, c'est possible. Enfin, elle avait une certaine instruction, et le plus gros a sûrement été à Courpierre. Peut-être oui. À vous de chercher.
Oui.
Voilà, sur l'instruction. Je ne parle pas du métier de couturière, je parle pas de l'instruction primaire.
Du coup, elle a appris la couture.
Nulle part.
Oui,
et ça demande où est-ce qu'elle a appris la couture. Ouais. Moi, je réponds très simplement, nulle part.
Et cette Adrienne, qui était donc à Aubazine, quand elles se sont retrouvées après toutes les deux?
Elles se sont retrouvées à Moulins, sûrement. Alors, j'anticipe un petit peu. On a beaucoup parlé, j'en ai parlé avec monsieur tout à l'heure. Après tout, ce double C entrelacé qu'on croit voir à Aubazine être le futur logo de Coco Chanel. Ouais, pourquoi pas? Alors, si quelqu'un l'a vu, c'est Adrienne, après tout, c'est elle qui a inspiré. Adrienne est allée à Aubazine, elle y a vécu. Combien d'années, j'en sais rien, mais elle y a vécu. Et Adrienne et Coco, à partir de 1910, au moins jusque dans les années 1920, ont pratiquement toujours été ensemble. Donc c'est peut-être elle qui se rappelait de ça. Je ne dirais pas le contraire, c'est une hypothèse parmi d'autres. Mais ce qu'affirme la famille de Moulin, c'est qu'elle ne savait pas coudre. Il n'y a pas besoin de savoir qu'il faut être un couturier. Vous avez Carmen Garfeld, c'est ça que vous avez. Mais c'est même pas.
C'est ça. Vous
dessinez quand même.
Oui, c'est dessiné. Mais Coco Chanel savait tenir mon père de ciseaux.
C'est surtout ça.
Oui, oui, madame. Je ne vois pas, monsieur.
Oui.
Je ne vois pas
de.
Ça n'a pas changé. Donc, vous confirmez qu'il était bien à Moulin avec Adrien?
Apparemment, oui. Qu'a-t-elle fait? On ne sait pas trop. Il y a une chose que Coco Chanel ne voulait absolument pas, c'était de parler de Moulin. Elle ne voulait pas parler de Moulin. Pour une.
Vous savez qu'à Moulin, il y avait une garnison.
Oui, oui.
Et c'est quand même là où elle a appris le métier.
Le quel métier?
Le couturière, puisqu'elle était embauchée pour réparer les uniformes. Les uniformes des officiers.
C'est ce qu'on dit.
Ben, c'est là où elle a rencontré Bazin.
Je ne crois pas qu'elle ait rencontré.
Ah, ben, quand Bazin le
confirme lui-même? Non. À votre avis, quand Bazin était-il à Moulin?
Ah, ben, je vais à la date en fait, mais je peux vous la ressentir avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est là où elle a rencontré Bazin.
Elle l'a rencontré à Vichy.
Elle l'a rencontré à Moulin. vous n'êtes pas sans savoir, c'est là où on a appris, on a donné ce surnom de Coco, c'est un moulin.
Il y a deux versions, là aussi.
Alors, j'ai vu deux versions.
Il y a deux versions sur le surnom du Coco. Il y a une version... Oui, effectivement, elle chantait, elle aurait chanté un moulin qui t'a vu Coco.
Ah oui.
Dans un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas l'air du casard, là, c'est plus le nom.
Il y avait une sorte de cabaret.
Hein ?
Cabaret,
il y avait dans un petit cabaret auprès d'ailleurs. L'autre version dit que c'était son père qui l'appelait comme ça, ma petite Coco. Alors, ben, vous choisissez, moi, je n'ai pas de... Je ne sais pas choisir.
Malsain.
Alors, Balzan. Alors, ce qu'il y a Balzan, toutes les dates que. Enfin, Moulin affirme, les gens de Moulin qui ont organisé tout un circuit autour de Coco Chanel, veulent affirmer que Balzan a rencontré Coco Chanel à Moulin. Moi, j'ai un gros doute, comme les habitants, comme certains de Moulin, d'ailleurs. Parce qu'on connaît très bien les dates de présence de Balzan à Moulin. C'est-à-dire quand il a fait son service militaire, la fameuse caserne, beaucoup plus tôt qu'on veut bien dire, il suffit de regarder sa fiche militaire, donc entre fin mi-1901, mi-1902. Après, il n'est plus revenu. Après, il a acheté une course, et il est venu faire courir ses chevaux à Vichy. Occasionnellement, une journée par an, hein, il allait à Moulin les faire. Il suffit de lire le résultat des courses dans le Figaro qu'on peut consulter en ligne sur Internet. Vous tapez sur Gallica, vous regardez le site du Figaro, enfin le Figaro, qui est numérisé en mode texte, c'est-à-dire qu'il suffit de taper Balzan, et vous savez pratiquement jour par jour où est Balzan. Et en fait, il est. Quand il vient dans le coin, il vient à Vichy, trois semaines en août. Pour les courses de Vichy. Et occasionnellement, il va à Moulin, mais vraiment une journée par an.
Il a fait son service militaire à Moulin.
Oui.
Le 10e hussard.
Il a fait son service militaire à Moulin, je parle un peu de mémoire, de septembre 1901 à septembre 1900.
Mais Coco avait déjà
15-16 ans quand elle était. En 1901, elle avait un peu plus, elle avait 18 ans. Non, je le dis dans le livre, il s'est passé des trucs à Moulin, donc Coco Chanel préférait ne pas parler. Elle avait horreur qu'on parle de Moulin. Je ne sais plus si c'est Morand ou Ville Morin qui le dit. Moulin, elle ne voulait pas m'entendre parler. Parce que, un, bon, elle était, ce qui pour aujourd'hui ne serait peut-être pas très grave, mais pour l'époque elle était, donc, elle faisait la dame de compagnie, là, mais peut-être les officiers ou les jeunes gens de Moulin. Avec Adrienne, d'ailleurs. Et deuxièmement, ce qui n'est pas formellement prouvé, mais ce qui est très probable, mais ce serait fait avorter à Moulin. Ce qui, à l'époque, était punissable par la loi. Je n'ai pas réussi à trouver le moindre document confirmant cette hypothèse. Mais après tout, oui, pourquoi pas. Puisqu'elle ne voulait pas qu'on parle de Moulin. Et elle a toujours regretté de ne pas avoir eu d'enfant. Donc, elle a tenté d'adopter de fait son neveu Palace, et elle a tenté d'adopter les enfants de son frère Alphonse, pour conserver le nom de Chanel. Donc, Moulin, c'était Rideau. Alors, combien de temps était là ? Elle a partagé son temps, d'abord à Moulin, sans doute. Et c'est vrai l'histoire du Gafcon, ça. C'est vrai sans doute l'histoire. Où elle a travaillé quelque temps dans la maison grand-père à faire chez. Pardon ?
À
refuser. À travailler dans un magasin d'habits, en fait, de confection. Qu'est-ce qu'elle y faisait ? Si sa famille dit vrai, elle ne savait pas coudre, donc elle taillait peut-être un peu, moi je n'en sais rien. Mais c'est un truc qui ne l'a pas marqué, c'est-à-dire, quand on lit bien, c'est. Ça et tous les livres, elle parle assez abondamment de Vichy, elle parle abondamment de Thiers, sans vraiment citer le nom, elle parle de Coupierre, elle parle de Brive et la mort de sa mère, mais elle parle pas de Moulin, comme si ça n'avait pas existé. Alors, il n'y a aucun document moulinois, mis à part peut-être une photo avec un officier, là, qui explicitement font référence à Moulin. Il y en a peut-être, mais il reste à trouver. Comme j'ai trouvé par hasard le document de Thierry. Un peu par hasard, parce que je le cherchais. Voilà, bon, est-ce que je peux répondre sur mon lard ? Un autre sur ces...
Et Adrienne, la qualité...
Pardon ?
Il y a déjà
une heure.
Et cette Adrienne, là, qui était à Aubazine, elle n'a pas laissé de mémoire.
Pardon ?
Adrienne, elle n'a pas laissé de mémoire.
On revient à Adrienne.
Je dirais oui et non. Parce que des gens, après, peut-être le monde Charles ou d'autres, ont fait des enquêtes, sont venus à Aubazine. Et les bonnes sœurs d'Aubazine se rappelaient d'une gamine, sans doute, qui était là, à Aubazine. Toute évidence, ça devait être Adrienne.
Alors, moi, je résume cette première partie. Je ne connais rien à Coco Chanel. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout mon époque. Je suis tout à fait neutre. Alors, pour l'instant, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a d'une part des documents historiques, comme par exemple les recensements, comme par exemple les documents militaires, bon, qui sont, eux, à peu près indiscutables, ou à peu près. À côté, il y a des gens qui ont écrit des vies romancées de Coco Chanel, si j'ai bien compris.
La première vie romancée, c'est celle-là.
Ça, c'est une vie vraiment romancée. Alors, le monsieur.
Romancée, j'en sais rien, il parle vrai quand même, mais bon, c'est.
Bon, enfin, si, elle a l'intention probablement d'intéresser les gens, et pour ça, il faut quand même broder. Tous les gens qui ont écrit des biographies en sont au même point. C'est-à-dire qu'ils ajoutent des détails croustillants, parce que sinon, c'était extrêmement barbant, le livre de quelqu'un.
Est-ce que c'était l'époque de Coco Chanel, quand elle a écrit ce livre?
Alors, attendez.
De Roux, là,
j'ai pas compris.
Edmond Charleroux, quand elle a écrit ce livre, c'était l'époque où Coco Chanel était encore vivante.
Quand il est sorti, non, puisque le livre est sorti en 1980.
Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Balzan. Alors, ce monsieur, c'est quoi? C'est son amant, c'est son...
Ça a été le premier amant connu.
Connu, bon. Ensuite, vous nous expliquez que, semble-t-il, à Moulin, fréquente les milieux de soldats, dans une sorte de...
Ce n'est pas forcément de soldats, c'est de la
bourgeoisie. Mais quand même, elle chante dans une sorte de cabaret qui n'est pas loin de la caserne.
Non, il n'y a pas de la gare.
Bon, d'accord, du côté de la gare.
Je ne sais pas bien où c'est la caserne, par rapport à la
gare. C'est pas
bien. J'avais pas fait moins de la gare.
Bon, tout ça, c'est... C'est pas des détails que dans une biographie convenable, on va mettre. Pas plus qu'un avortement.
C'est suggéré dans le cadre.
Voilà, on peut suggérer, c'est tout ce qu'on peut faire. Je comprends qu'elle n'ait pas eu envie d'en parler.
Non, elle ne voulait pas.
Alors, pourquoi Edmond Charleroux s'est-elle intéressée à Aubazine? Peut-être que c'est tout simplement parce que ça lui disait quelque chose. Ça permettait de faire quand même un chapitre intéressant. Si elle avait été élevée à Trifouilly-les-Oies, elle n'aurait pas fait de chapitre sur Trifouilly-les-Oies.
Non, mais j'ai une explication.
Enfin, l'explication, c'est Adrienne.
Oui. C'est Adrienne, et qui vaut ce
voilà, qu'elle
est. En fait, Edmond Charleroux n'a pas vraiment interrogé, ou fait interroger, parce qu'elle faisait pas forcément une même enquête, les gens qui ont connu l'enfance de Chanel. Qui est-ce qui connaissait réellement l'enfance de Chanel? Sa sœur Julia, morte en 1910. Sa sœur Antoinette, morte en 1920. Ses frères, j'en parle pas, ils étaient placés. Sa tante Adrienne, la future baronne de Nexon, qui est morte dans les années 50, je ne m'en rappelle plus exactement, mais bien après ses biographies. Donc, ont vraiment parlé, d'après ce qu'on... Elle remercie des gens à la fin, Edmond Charleroux, une certaine Adrienne Vallée, qui était aussi une cousine germaine de Coco Chanel, qui était la fille de ce Hippolyte qui habitait Brive à un moment. Et cette Adrienne Chanel, née en 1908, était loin d'avoir connu l'enfance de Coco Chanel. Par contre, elle savait, sans doute, qu'Adrienne Chanel, sa tante, c'était peut-être sa marraine, puisqu'ils avaient le même prénom, était allée à Aubazine. Donc il y a eu, je crois, une espèce de confusion là. Elle n'est pas allée plus loin, Edmond Charleroux. Elle disait, on disait qu'elle racontait n'importe quoi. Donc, elle a romancé, c'était une romancière, Edmond Charleroux, d'abord.
Ah ben oui.
avant d'être une Lyon.
Et Coco Chanel, ça devait être quelqu'un de très secret, de très...
Oui, oui et non, puisque tout le monde dit qu'elle parlait beaucoup à tort et à travers. Donc il fallait savoir, elle parlait tout le temps, de tout ou de n'importe quoi.
Oui, pour noyer le poisson peut-être, pour parler fort.
Ben, 60 ans, 70 ans après, et encore madame. Non, non, vous n'êtes pas désolé, mais j'entends pas bien. Attendez.
Alors, dites, c'est pas pour vous d'entendre. C'est la pagaille.
Oui, oui. Là, j'avais vécu.
Pardon ?
À Aubazine. Sans vos propos.
Oui, elle y est peut-être passée, mais elle n'a pas été en.
Ouais, elle n'y aurait pas vécu. Comment m'expliqueriez-vous le fait qu'entre les années 1950 et 1965, elle soit venue très régulièrement.
Il y a un document qui prouve ça.
Je vais vous donner les coordonnées et je vous conseille de prendre contact avec la ville du Meux, au nord de Paris, le Meux, au nord de Paris, la Compiègne, où il y a le conservatoire Chanel et où sont référencés les passages de Mademoiselle Chanel entre les années 1950 et 1965, où elle vient en gros laisser une petite valise à Aubazine.
Je n'ai pas d'explication, simplement. Il y a je ne sais pas comment, c'est pas le mot. Il y a un organisme de chez Chamonix qui s'appelle
le
Conservatoire du patrimoine. Qui, au vu de la préface qu'a fait Jean Lebrun, Jean Lebrun a envoyé la préface de mon bouquin, lui ont répondu. Puisqu'il disait très clairement ce que j'ai dit là, on s'en doutait. C'est-à-dire que Chanel n'était pas venue au Brésil. Voilà la position des gens du patrimoine.
Ah, d'accord. Je fais partie de la maison. Je n'ai pas tout à fait la même version que vous.
Ah, ben écoutez, c'est ce qu'ils ont répondu à Jean Lebrun. Vous êtes madame ?
Je suis madame Bess.
Madame
Bess. Et je travaille pour la maison Chanel. Madame Bess.
Bess.
Est-ce qu'elle a laissé je ne sais pas, je me demande
en ma connaissance, non, c'était pas
quelque chose pour prouver tous ces jours, tous ces journées.
Elle aurait raconté ses mémoires, c'est tout ce qu'elle a raconté à ces gens-là.
Des petits agendas, des petites choses.
Oui, par rapport à ces mémoires, la seule chose que l'on sache, c'est que Gabrielle Chanel a toujours eu honte de son enfance miséreuse. Elle n'a pas eu une enfance. Je vais terminer. Elle a été d'une famille qui était marchand ambulant. Ce n'était pas des gens qui voulaient sur l'or. Hein. Donc voilà, elle a toujours eu honte. Elle a toujours eu honte d'Aubazine. Elle a toujours eu honte de Moulin, parce que là, je vous l'accorde, qu'elle a eu la cuisse légère, comme bien des femmes qui fréquentaient ces cafés-concerts de l'époque. D'ailleurs, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. C'était juste pour gagner 4 sous qu'elle allait là-bas. Et Balzan, effectivement, l'a tirée, entre guillemets, parce que mon expression, l'a sortie, je voulais dire, de Moulin. Pour l'emmener à Royal Lieu, et c'est lui qui l'a intégré un petit peu à un monde plus aisé, où elle a rencontré Boy Capel.
Oui, c'est
de là ensuite. Donc elle s'est créée véritablement un mythe, une histoire qu'elle a bien voulu raconter à tout le monde, sur une enfance un peu plus glorieuse, dans des villes un peu plus chic que ce que n'a pu être l'enfance, on imagine, à Aubazine, sans chauffage.
Moi, ma question, pourquoi honte d'être allé au Brésil.
Oui, c'est vrai.
C'est pas
mais parce que quand on devient Gabrielle Chanel avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu avoir en fréquentant le grand monde, à cette époque-là, c'était assez mal vu qu'une jeune fille de campagne soit en soirée. Elle a tellement voulu s'intégrer dans ce monde de l'aristocratie, de la bourgeoisie et anglaise avec le duc de Westminster ou dans la bourgeoisie parisienne, que c'était très mal vu à l'époque d'être issu d'un milieu
défavorisé, modeste, comme on pourrait
dire. Bon, modeste, défavorisé. Modeste. Non, mais moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire qu'elle avait honte d'être allée au Basile.
Parce qu'elle a dit, qu'elle aurait dit elle-même qu'elle avait honte.
Mais pourquoi elle aurait parlé, ce qui était beaucoup plus dévalorisant, elle avait dit pendant 25 pages, quand même, à Louise de Villemorin, de son séjour à Thiers.
Elle aime peut-être romancer, elle aussi.
Pardon ?
Elle aime peut-être romancer, elle aussi.
Elle a un peu romancé, mais les grandes lignes sont justes, quand même. Bien sûr, essayez de raconter. Je parle à n'importe quelle personne de mon âge. Quand 60 ans, 70 ans en arrière, on se rappelle d'une manière un peu floue, quand même, de ce qu'on a fait. Mais je crois qu'il faut la croire. Bon, on raconte à Aubazine, à tort ou à raison, à tort ou à raison, que l'escalier de la Posa a repris, sa maison qu'elle avait fait construire avec Duke Westminster, enfin, je ne sais pas, qui était vraiment à l'origine, mais enfin bon, sa maison de repris, elle avait fait reproduire l'escalier, alors, selon la version actuelle, de l'église, hein, pas celui qui est à l'intérieur du couvent. Moi, j'ai écouté le discours de sœur Christophora. Ce jour-là, elle ne devait pas avoir envie de se déplacer. Elle nous a dit que c'était l'escalier qui était au milieu du couvent. Ce qui manifestement était. Elle n'a même pas dit que c'était celui qui était dans l'église. Bon, si un escalier, c'est celui qui est dans l'église, hein, c'est sûr. Or, quand on lit. Parce qu'il n'est pas faux, quand même, dans toutes ces biographies. Quand, il faudra qu'on m'explique pourquoi ça serait faux. Quand on lit la première version de Claude Bellaine, elle dit explicitement qu'elle se souvient d'un mois de vacances heureuses qu'elle a passé, je ne sais pas le mot qu'elle emploie au monastère ou au couvent, je ne sais plus, de Valette en Corrèze. Qui est-ce qui pouvait connaître Valette?
Mais moi, je connais Valette. J'ai mon arrière-grand-mère qui est née en 1850.
Sous l'eau.
J'ai ma famille.
Oui, maintenant, on est sous l'eau.
Oui, maintenant, il est sous l'eau, mais à l'époque, il n'était pas sous l'eau.
Oui, mais...
Et qu'elle avait envoyé... Alors, il y a deux versions. Il y a la version qui sont des rapports...
Je suis né en 1941, j'ai
un certain nombre de livres, dont je crois sur des monts de Charlot, mais j'en suis pas très sûr, en disant qu'elle avait envoyé son architecte Streitz à Aubazine. Et il y a la version qu'elle a rédite à Claude Bellaine, où elle dit qu'elle a envoyé son décorateur, Janssen, à Valette.
Ah. Je vais vous décrire.
À Valette, il pouvait y avoir un escalier, semble-t-il, un peu identique, c'est un monastère du même type, à Aubazine.
Je peux vous le
décrire. Je tranche pas entre l'un et l'autre.
Parce que je l'ai vu.
Hein?
Je peux vous le décrire parce que je l'ai vu. J'avais 9 ans quand on a noyé Valette. Oui. Toute ma famille est originaire de...
Attendez.
C'est la commune d'Aurillac.
C'est à 2 km en aval de Spontour, sur la rive gauche. On a noyé l'abbaye, donc on l'a dynamité en 1950 et ensuite on a noyé. Donc quand on l'a dynamité en 1950, moi j'avais 10 ans, tout le monde pleurait. Alors cet escalier, moi je l'ai vu. J'ai vu Valette, j'ai vu l'abbaye telle qu'elle était. Alors je vais vous le décrire. Alors, un escalier hardi, fait de blocs de pierre, soutenu par des colonnes et des arceaux, conduisait au premier étage, devenu à peine habitable. Parce que c'est le père Serre qui avait donc restauré la maison pour y mettre des petites sœurs, donc, il les formait à la piété, elles allaient chez les gens.
Micro.
On parlait près du micro.
Il les instruisait, il les apprenait à coudre, il les envoyait garder les troupeaux deux par deux, parce qu'il y avait, il y avait pas mal de fermes alentour. Et donc, c'est comme ça que moi, ma grand-mère m'a menée aussi à Valette. Mon arrière-grand-mère est née en 1850, et ma grand-mère qui était de Spontour m'a menée à Valette. On y allait souvent. Un petit chemin de rive y allait, c'était un chemin de halage. Autrement, pour y aller...
On peut passer une photo de Valette, pour ceux qui ne connaissent pas.
Pour y aller, Valette, ça se situe en dessous d'Aurillac, de la commune d'Aurillac, en Corrèze. Oui.
C'est sur là, donc.
C'est 2 km en aval, de Spontour, voilà, et sur la
voilà,
et voilà donc l'ancienne abbaye. Donc quand on l'a dynamité, ça a fait un bouquin épouvantable. Il y avait des petites fermes, et moi j'ai des ancêtres qui ont vécu à Valette. Ma grand-mère est née à Spontour, mon arrière-grand-mère est née à Valette, et donc je connais un peu cette abbaye parce que quand même je l'ai vue. D'accord. Je l'avais même dessiné moi-même dans un premier roman que j'avais écrit, de nos romans affreux que j'avais écrit qui s'appelait Les Sauvageons quand j'étais jeune. Mais en fait, je ne préfère pas en parler maintenant. J'ai écrit d'autres choses depuis, mais ça, c'est pas l'important. Mais l'escalier, voilà. Est-ce que c'était ça, d'après vous?
Non, moi, j'ai pas d'idée. C'est elle qui le dit. Enfin, c'est elle qui le dit.
Un escalier hardi fait de blocs de pierre soutenu par des colonnes et des arceaux.
Quand j'entends des. Oui. Quand je lis des phrases comme ça. Je me dis, on est en 1970, donc 70 ans après, oui. Je me dis quand même, Coco Chanel n'a pas inventé ce mot de valette. Parce qu'il connaissait valette.
On disait la vallée bénie, la vallée heureuse, la vallée bénie.
Oui.
Et donc, c'est donc le père.
Michel Peyramore en parle dans un roman.
Oui, 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 mais je l'ai rencontré justement à ce sujet parce que je lui ai donné aussi quelques indications. C'est donc un généreux donateur, Gabriel Champfeuille, qui était un ancien marché de Moi, qui a donné l'abbaye au père Serre, qui a fondé la congrégation.
Oui, on connaît bon, l'histoire. Alors après.
C'est approximatif. C'est
est-ce que l'escalier de la Posa est inspiré par celui de.
Je ne sais pas.
Par celui-là. Je mets un point d'interrogation.
Je peux savoir d'autres choses. Ouais. Je suis sur une piste à propos de registres.
À propos
de registres.
Bon, mais tant mieux.
Parce qu'on tenait des registres sur les enfants qui venaient. On formait des petites filles à la piété. On leur apprenait à coudre, on apprenait à laver, à cuisiner. Elles allaient soigner les malades. C'était les petites sœurs des C'était les petites sœurs des malades. Il y avait 400 petites sœurs dans toute la France qui étaient formées. La maison mère était à Mauriac. C'était le père Serre qui dirigeait tout ça. Donc, elles soignaient les malades, elles allaient chez les gens, elles ensevelissaient les morts. Et ça a duré jusqu'à 1928.
Oui, en 28, ils ont fermé.
Oui, parce que bon, il y a eu pas mal de monde en 1899 quand Valette a ouvert. Peut-être que Gabriel aurait été là, je ne sais pas.
Elle dit, elle, qu'elle est venue voir sa sœur, Lange.
Mais à partir de 1914, après la guerre, les voies de communication, tout ça, c'était impossible. Et donc, elles ont fermé, les petites sœurs ont fermé en 1928 ce pensionnat.
Oui, bon,
la maison mère est à Mauriac. Maintenant, ça a fusionné avec d'autres maisons mères, dont j'ai l'adresse et le téléphone, et je vais demander la photocopie des registres.
Oui, alors, à Mauriac, j'ai pris le contact avec, je ne m'en rappelle plus le nom des sœurs, là.
Oui.
Je me demandais qu'elles n'avaient rien trouvé. Mais ceci dit, ce n'est pas une preuve.
Oui, elles n'ont pas les registres.
Alors après, elles m'ont dit que c'était conservé.
Ça a fusionné.
Hein?
Ça a fusionné avec d'autres maisons.
Oui, donc c'était conservé. Alors, j'ai plus le nom en tête.
Même pas.
Donc, mais j'ai écrit, on m'a répondu vaguement qu'il n'y avait rien.
Moi, j'ai eu deux personnes ce matin qui sont décidées à m'aider. Maintenant, je promets rien.
Mais tant mieux.
Je promets rien parce qu'il se peut que j'aille droit dans le mur. Mais enfin, on a été gentil avec moi.
Donc, j'ai récupéré l'arche d'entrée qui a été transportée à Aurillac.
Oui, c'est ça.
Et des éléments ont été transportés au château de Val, qui appartenait aussi à l'époque à EDF, qui construisait le barrage de bord. Et très vite, quand EDF est parti, tout ça a été plus ou moins abandonné. Les gens du coin ont pillé tout. Ils ont démonté les fenêtres.
Vous avez donc connu le barrage de bord et tout,
non? Ah, mais j'ai.
Elle ne voulait que pour elle, puisque les femmes se parfumaient peu. C'était plutôt des eaux de toilette, bref, c'était des choses qui ne lui convenaient pas. Ernest Beau lui a fait deux séries de cinq propositions. La première de 1 à 5 et une seconde proposition. Et sur la première proposition, elle a retenu la cinquième touche olfactive. Le fait est que je vous rejoins, elle aime tout ce qui est ésotérique, elle aime le mystique, et le chiffre 5 a toujours été quelque chose d'important pour elle, et elle le reconnaît, il écrit elle-même. Elle est née le 19 août 1883. Au mois d'août, c'est le signe du lion, qui est le cinquième signe astrologique. Donc il y a eu tout ça, c'est le 5, c'est les 5 doigts de la main. Elle avait une vraie croyance par rapport à la numérologie.
Il y a 5 doigts de la main.
Alors, non, là c'était vraiment pour le 5, et elle a gardé ce chiffre très important.
Il y a des choses qu'on pouvait contester. Bon, dans les tribunaux, dans les procès, j'ai une intime conviction. Il y a une conviction absolument certaine, c'est qu'elle était entière. Et Est-elle passée un moment à Aubazine? Bon, c'est, tout est possible, mais c'est sûrement très marginal dans sa vie. Il n'y a aucune raison, comme quoi que dise Mme Besse, il n'y a aucune raison manifeste qu'elle ait eu honte d'Aubazine. Elle a parlé très librement d'un tiers en racontant comment se passait un tiers. Elle en parle, elle le décrit, elle le raconte. Il faut la croire. Je crois que l'important, il faut croire Coco Chanel et non pas croire
son mythe. Son mythe.
Oui, monsieur.
Voilà, ce sera la dernière question.
Alors, peut-être il y en a d'autres là-bas. Qui
pourquoi elle n'est pas dans le recensement avec Adrienne? Elle devrait y être.